Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Ka Ohanui, et bienvenue dans cette 49e émission,
édition 2023.
Au cours des années 1854 à 1858, les quatre années que nous avions survolées la dernière fois, en même temps qu'on avait noté une accélération dans le rythme des conversions, on avait aussi vu de plus en plus de gens mourir de maladies, mais aussi au cours de querelles provoquées par les abus d'alcool. La nouvelle religion ne semble pas apporter aux Enana le réconfort dont ils ont besoin. Au cours de cette année 1858, Max Radiguet, toujours fidèle aux marquises, est de nouveau à Taiohae. À la page 237 de son livre, il expose son opinion sur la situation dont il est le témoin au jour le jour. C'est presque la conclusion de son livre journal et il est intéressant d'entendre ce qu'un Français éduqué pense des résultats de l'occupation française des marquises au bout de 16 ans. Voilà ce que dit Radiguet, ou plutôt voilà ce qu'il écrit. On a créé des besoins naturels sans avoir pu leur donner encore l'habileté et les moyens de les satisfaire. Devenus avides et intéressés, ils pratiquent aujourd'hui avec facilité le trafic des produits du sol et du corps de leurs femmes. À Taiohae, les femmes surtout ont substitué au manteau de tapa si pittoresque et si souvent renouvelé des peignoirs d'indiennes et de mousselines qui bientôt imprégnés d'huile, souillés de terre, déchirés par les broussailles, les font ressembler aux mendiantes les plus sordides, les plus déguenillées. Les couronnes de fleurs et même les éventails, ces frêles et élégants abris, menacent d'être détrônés par le hideux parapluie noir de coton, comme à Tahiti. La population de la baie de Taiohae est réduite au tiers de sa population depuis 1843 en 15 ans. Pas plus aujourd'hui qu'en 1842, les naturels ne sentent la nécessité d'arroser de leur sueur une terre assez généreuse pour leur prodiguer spontanément ses dons. Ils ne se doutent pas que le moindre effort décuplerait la production de l'île. L'agriculture n'y a donc fait aucun progrès. L'occupation française a eu pour résultat d'anéantir une partie de l'industrie autour de Taiohae. Aujourd'hui, cette industrie ne se borne plus qu'à la construction de quelques pirogues, à la fabrication de quelques étoffes de tapa, des nattes, des cordes en pouhou, la bourre de coco tressée, des filets, des engins de pêche, des armes et des ornements de jours de fête. Et de tout cela, on pourrait à peine aujourd'hui s'en procurer quelques échantillons. La construction des grandes pirogues est abandonnée depuis 1857. Seules quelques pirogues de pêche sillonnent la baie et les naturels possèdent déjà 23 baleinières, souvent fatiguées par un long service et obtenues à des prix élevés auprès des navires de passage. À l'époque où l'occupation française comptait un personnel nombreux, le salaire quotidien des ouvriers indigènes était le double d'aujourd'hui. Les autres baies de Nukuhiva et des autres îles du groupe, moins en contact avec les navires, et par conséquent privées de moyens d'échange, continuent seules à construire les pirogues de guerre et à fabriquer les ustensiles indispensables. Aussi, le plus insignifiant produit de l'industrie nukuhivienne se vend-il aujourd'hui à des prix fous. Les lois traditionnelles du pays limitent à certaines localités le droit de confectionner les tapas, ceux de Hiva'oa, les pa'e de Vaitahu,
c'est-à-dire les chapeaux de Vaitahu.
Les éventails et les pipes sculptées de Fatuhiva étaient fort estimés dans le groupe nord. En revanche, les huiles teintes, les onguents, les pommades, différents cosmétiques ou drogues fabriqués à Nukuhiva par les kakiyu,
c'est-à-dire par les anciens,
ont des vertus merveilleuses et appréciées. Ces produits partent vers le groupe sud en ayant été payés fort cher et les barbes de vieillards jouent encore un grand rôle dans ces transactions.
Il est intéressant de noter que malgré les 60 années écoulées depuis le séjour d'Edward Roberts, le monopole de la fabrication du Ekamour, le parfum de curcuma cuit au four, appartient toujours à Nukuhiva et probablement toujours au Hapa'a de Mu'ake. Max Radiguet poursuit.
Six pères de la congrégation de Picpus et 4 frères habitent aujourd'hui sur les 3 îles de Nukuhiva, Huapo et Hivaoa. Tahuata a été abandonné en 1849 et Fatuhiva en 1855. Leur supérieur, Monseigneur d'Ordillon, évêque de Cambysopolis, réside à Taiohae. Son humble demeure se dresse sous un dais de verdure au bord de la vallée Hikohei. Tout près s'élève non moins humble la petite chapelle de la mission. Les Kanaks ont vite reconnu que les apôtres chrétiens formaient une classe à part, dévouée, charitable, patiente, austère et inaccessible à leurs grossiers instincts. Aussi ont-ils pour eux une estime qui s'est manifestée en nombreuses circonstances. Malheureusement, les missionnaires sont aux marquises trop peu nombreux et trop détachés des choses de ce monde. S'ils pouvaient, d'une façon suivie, donner eux-mêmes aux indigènes l'exemple d'un travail manuel, s'ils employaient la persistante énergie dont ils sont doués pour la propagande catholique à prouver d'abord à quelques néophytes qu'on peut tirer du travail un bénéfice plus digne et supérieur à celui qui résulte à peu près uniquement de la prostitution, ils réussiraient, je n'en doute pas, à entraîner petit à petit la population dans une voie nouvelle et mettraient un terme au débordement et à cette débauche précoce si préjudiciable à la reproduction de la race.
La remarque de Max Radiguet est très novatrice, car il suggère aux missionnaires, en plus de leur sacerdoce religieux, de profiter du respect des marquisiens pour se retrousser les manches et leur montrer, par le travail manuel, comment améliorer leurs conditions de vie. Max Radiguet continue.
L'occupation leur a créé des besoins, les a initiés à des jouissances dont ils n'avaient aucune idée. La présence d'une force armée à Nukuhiva n'aura abouti qu'à faire craindre et respecter le nom français, mais pas à faire évoluer les gens. Que de commentaires à faire sur ces réflexions. Pour moi, en résumé, ce qui ressort de ces lignes, c'est qu'on a voulu changer les marquisiens sans se soucier de leurs désirs ou de ce qui leur convenait. Ils ont maintenant le cul entre deux chaises, entre lesquelles ils font l'aller-retour. Mais le plus souvent, ils s'assoient au milieu, et cela leur est fatal, ils sont en train d'en mourir. D'autant que le pire est encore à venir.
Hallelujah, dikana halu, tuau deka avai, ki apau te puakea, te hikutai. Matatini e maahogia, nā te manihi. Matatini e maahogia, nā te manihi. Tiki kaa o te hinako, kia puhi te metaki, te awa aki. I tō au nohona, tahia nui, te moku. Te kana hau te tapa vahu nui, te moku te kana hau te tapa vahu nui. Mawe mai te mou ananu te kaoha, tawaka te waka tawaka o te tama, te motua te tupuna o te kaoha, pakitaki tou e o taki kana hau. Mawe mai te mou ananu te kaoha, te motua te tupuna o te kaoha. Kana hau ki tapa vātunui.
mi mai ti mo uana nuti ka oha Tabaka te whakata waka o te tama Te motua te tupuna o te ka oha Pakitaki to ue o taki kanaha Mave mai te mo uana nuti ka oha Te motua te tupuna o te ka oha Te motua te tupuna o te ka oha
En 1859, le 6 janvier, Monseigneur d'Ordillon bénit la goélette Te Fetu au Tétail, l'étoile de la mer, achetée 1200 francs de l'époque par l'évêque en août 1858. En février, à Ouahouka, Monseigneur d'Ordillon installe le catéchiste hawaïen Siméon et sa femme Bibiane. Le 1er février, malgré l'opposition farouche de Matahéva, sa voisine et grande prêtresse des Taioa de Hakaui, le chef Matio
de Matiyake
de Hakatea, obtient un missionnaire pour sa tribu. Depuis 1856, la distillation d'alcool de coco, Namuehi, a gagné toutes les îles. Sans tapu local pour en réguler la fabrication, les Enana en font rapidement un usage abusif qui, en quelques années, modifie leur comportement, en particulier dans l'art de tuer. Les bacchanales sans fin se terminent dans le sang et le sort réservé aux victimes n'a plus rien à voir avec la quête de victimes humaines, Heaka. Pour réagir à cette situation, deux grandes prêtresses, Taua, impose un tapu sur le Namuehi. Il s'agit de Taua Hanatiki de Fatuiva et de Papahu de Hivaoa, dont l'ordre est respecté pendant 10 ans jusqu'à la mort de la deuxième. Quant à Tahuata, pour s'en référer à 1857, il est déjà trop tard. Au cours de l'année, à Omo, à Fatuiva, le navire Europa bombarde la vallée avec des maillons de chaîne pour châtier une tentative de vol de baleinière. Cette même année, Te Moana entreprend une campagne militaire contre les Taioa de Hakaui. Blessé à la main pendant les combats, il clamera ne devoir son salut qu'à Yehova et à la Sainte Vierge, dont il portait toujours une médaille autour du cou. Après leur défaite, les Taioa ne se convertissent pas, mais reconnaissent l'autorité de Te Moana et ne se soulèvent plus. Le 15 décembre, le poste militaire est à nouveau abandonné.
Les missionnaires sont chargés de la garde des bâtiments, dont le pavillon des officiers devenu subdivision administrative et la résidence.
La mission installe une école où le frère Florent Forgeot est instituteur avec une trentaine d'élèves inscrits. Le gouverneur de la richerie impose l'enseignement en français. C'est le deuxième abandon historique de l'archipel qui sombre dans l'oubli. Le 19 décembre à Taiohae, Monseigneur d'Ordillon inaugure une école gratuite pour grandes filles et jeunes femmes
sur la terre Maui.
À Uopou, après la mort du chef Heato en 1844, le désordre s'installe sur l'île où les Naiki et les Tavaka s'opposent en guerres interminables.
D'après les historiens, il faudra attendre des années pour que les chefs Kohupapa et Teiki Tutoua
imposent le retour à l'ordre et à l'unité des tribus. En 1860, le 14 janvier, par décret impérial, les établissements français de l'Océanie deviennent 3 entités distinctes, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna. Les îles Marquises sont rattachées au gouvernement de Tahiti. Le 11 mars, les Hapa'a renversent leurs idoles et brûlent leurs dieux sacrés pour se convertir. Le 22 mars, Taua Matahéva, la grande prêtresse de Hakaui, accepte la mission dans sa tribu. Le 23 août à Taiohae, Monseigneur d'Ordillon bénit l'église Notre-Dame des îles Marquises. C'est en fait l'ancien magasin général, aujourd'hui maison d'arrêt, qui devient l'église de Taiohae. Puisqu'il n'y a plus de marine, puisqu'il n'y a plus de militaires, il n'y a plus de matériel et donc plus besoin d'entrepôts. Et c'est l'église qui récupère le magasin général pour y installer son église. Le 25 août, l'administration des îles Marquises est remaniée. Un résident fait place au commandant particulier. 13 se succéderont à Taiohae jusqu'en 1889. Disposant de peu de moyens, il ne peut se déplacer qu'au gré des navires de passage. Insensiblement, les Enata du sud-est, abandonnés à eux-mêmes, commencent à oublier toute promesse de sagesse et de tranquillité. Le 28 août, à Ouahouka, Monseigneur d'Ordillon bâtit solennellement le chef Kahu et Uwa et ses deux filles. Le lendemain, il bénit leur chapelle de bois et de chaux.
Le 4 octobre, fait escale à Taiohae un navire transportant de Brest à Tahiti
entre autres un amiral, sa famille et un groupe de frères de Ploërmel, dirigé par le frère Albert Robert, qui raconte l'escale. Le premier jour, ils rendent visite à Monseigneur d'Ordillon et à Témoana, auquel l'amiral remet une épée. Le frère précise qu'en l'absence de représentants de l'État, c'est Monseigneur qui en fait fonction. Le lendemain dimanche, le groupe assiste à la messe dans la chapelle du magasin général. C'est Vaikehu qui commence la prière et tous les autres continuent sur le ton de la psalmodie. Il est intéressant de noter que déjà à l'époque, les prières dites en marquisien étaient psalmodiées, c'est-à-dire chantées d'une manière extrêmement monocorde, comme on le fait toujours de nos jours. L'après-midi, ils vont déjeuner de Popoï chez Témoana, dont la maison est bien tenue, mais le frère dit qu'ils doivent manger avec les doigts, car il n'y a pas de cuillère. Il termine en précisant que Témoana et Vaikehu sont très pieux, et que Vaikehu a une très bonne influence sur Témoana, car elle l'a convaincu d'arrêter de boire de l'alcool. Voilà encore un détail intéressant qui nous donne un aperçu de la bonne influence qu'avait Vaikehu sur Témoana. La veille du départ, ils enterrent un marin décédé sur place. Le 19 décembre, c'est l'arrivée du nouveau résident, le lieutenant de vaisseau de Kermel, qui, pour s'opposer à la mission, va encourager les Enana à se détourner de l'église et à reprendre leurs anciennes traditions. Il distribue des autorisations de fabrication d'alcool de coco et nomme chef des hommes qui partagent sa politique. Il reprend la charge du poste militaire, la résidence et le bâtiment administratif. L'église conservera le magasin général devenu église jusqu'en 1866. De 1860 à 1862, Nukuhiva sombre dans l'anarchie. Les chapelles sont incendiées et les objets du culte profanés. Ivresse générale, coïca interminable, retour à la nudité, au tatouage, au paganisme, explosion de rixes et de meurtres, réapparition des festins cannibales, l'enfer sur terre pour les missionnaires qui vont bientôt réagir violemment. Au cours de l'année, la mission abandonne Uahuka. Elle n'y retournera qu'en 1877. En 1861, le désordre règne à Nukuhiva et sur le reste de l'archipel. Hemo po tutir. En raison du travail de sape du résident, les missionnaires et les biens de la mission sont menacés et parfois détruits. L'alcool commence à faire des ravages très sérieux. En mars, la chapelle de Akaehu est profanée et pillée. Le père Cholet manque d'être tué à Akapa, à Hatiheu. On lui vole tous ses vêtements et on tire au fusil sur le père Orens Fréchou. Monseigneur d'Ordillon rappelle ce dernier à Taioha et puis l'envoie à Hivaoa. C'est le père Cholet qui s'occupera des deux vallées. Le 30 août à Hakaui, Monseigneur d'Ordillon baptise la grande prêtresse Tauamataheva, qui prend le nom de Tahia Ma'u'ani. Elle rejette son nom païen et toutes ses fonctions associées. La centaine de Taioha vivant à Hakaui se convertit avec elle. À Hakahetau, Uopo, arrivée du missionnaire protestant hawaïen Samuel Kawe Aloha, qu'on appelle aussi Tawaloha, et de sa femme Ka'aiya Wahia, ils ont quitté Puama'u. Et pour montrer la dégradation morale de l'époque, voyez l'exemple suivant. De passage dans l'archipel, le capitaine Fisher du navire Général Pike accepte de payer 8 mâchoires de cachalot entières, totalisant 300 dents, plus un fusil, pour avoir des relations avec une fillette de 11 ans. Chers amis, alors que le rythme des conversions s'accélère, en raison de l'abus d'alcool, la santé physique et morale des Enana ne cesse de s'aggraver, mettant en péril la vie de tous, d'autant que par opposition à l'Église, les résidents font tout le contraire de ce que leur commande leur position. Comme nous venons de le voir, le début des années 1860 est symbole d'anarchie. En réaction à cette brutalité, les autorités de Tahiti et de l'Église vont édicter des lois qui seront tout aussi brutales et destructrices. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Et merci à Joseph Kaiha pour sa chanson Tawakaoha qui vante les charmes d'une célèbre vallée de Uapoo. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, à Pai, au Oahu. No te ati e nada.